Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Ce gîte, c'est parti comme ça aussi au début. Hein. C'était, et si on ouvrait un gîte? Et donc, il y a plein d'idées. On a toute une vie pour les réaliser. Quoi. Donc, l'idée d'avoir une carrière comme nos parents, nos grands-parents, bah, j'y crois plus trop. Enfin, je croyais déjà pas en commençant, parce que j'ai déjà commencé en changeant de boulot tous les ans. Donc, c'est juste que là, je suis plus ou moins stable depuis qu'on a Tom, mais je sais que c'est simplement une stabilité pour pouvoir mieux rebondir après, quoi.
Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants, prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des Clés du Gîte? Car en plus de ce podcast, les Clés du Gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram Les Clés du Gîte. Et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute! Bonjour Chloé, bonjour Yannick.
Salut Laura.
Salut Laura, comment vas-tu?
Mais ça va et vous?
Oui, super.
Super, ouais.
Trop contente de vous accueillir sur le podcast et de découvrir plus en détail votre histoire. Alors ma première question pour que vraiment on puisse s'imaginer être à vos côtés, c'est est-ce que vous pouvez me décrire ce qui vous entoure, où vous vous trouvez?
Eh ben, en gros là on est à la cabane, on est face à la baie aux fenêtres et donc on voit le terrain avec le petit vent, un ciel gris aujourd'hui et la nature autour. C'est le début de l'automne, c'est assez amusant de voir cette transition.
Oui, un choc thermique.
Oui, on a eu droit à une semaine d'été qu'on n'a pas eu cet été. On l'a eu ici en octobre, totalement normal. Hier, il faisait 25. Et aujourd'hui, il doit faire 15, 16, 17, je ne sais pas.
Bon, et pour donner un peu plus de contexte, on est dans le Finistère, dans les Monts d'Arrée, et vous êtes donc dans votre refuge d'Ouarène. Alors, deuxième question, qu'est-ce que ça signifie d'Ouarène?
D'Ouarène, ça signifie terrier en breton.
D'accord. Vous êtes tous les deux originaires de Bretagne?
Non, du tout.
Pas du tout.
Yannick est belge.
Des imposteurs.
Non, c'est faux.
Mince, on a découvert.
Non, ça fait 5 ans qu'on est là maintenant, mais juste avant, on était en Belgique, d'où Yannick est originaire, et moi, je suis originaire de Champagne-Ardenne.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les deux dans la vie ?
En gros, moi, je suis développeur de logiciels pour une compagnie, donc je suis employé, je bosse sur un ordi toute la journée à taper des lignes de code, à gérer des projets et grosso modo, ouais, à faire avancer tout ça.
Et moi, je suis fleuriste.
Et Yannick, tu bosses à distance ?
Oui.
En gros,
je bosse toujours pour la même boîte que quand on était en Belgique. J'ai juste changé de contrat parce que c'est une boîte internationale qui a des filiales ici en France. Et donc, avant de partir de la Belgique pour la France, on s'est rendu compte que ma boîte pouvait nous soutenir, me permettre de déménager, et ça a facilité beaucoup de choses pour ce changement de vie, en fait.
Super. Et ce changement, justement, vous allez nous en parler. Donc, il y a 5 ans, je pense, vous avez tout plaqué, a priori.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a déclenché ce changement, cette envie d'ailleurs ?
C'était en 2016, on était sur le retour des vacances dans le sud et on a fait un petit crochet par la Bourgogne. Et là, on avait passé une nuit dans une petite roulotte à Matour et on a rencontré les propriétaires qui, eux, étaient normands à la base. Et ils avaient aussi totalement changé de vie et le feeling est hyper bien passé. Et quand on est rentré en Belgique, on s'est dit que c'était ce qu'on avait envie de faire, rencontrer des gens, les accueillir dans un chouette lieu. Ouais, je crois que c'est à peu près tout.
Mais c'était soudain ou il y avait quand même... Ça exagérait un sentiment que vous aviez déjà depuis quelque temps ou c'était plus une révélation ?
J'aurais tendance à dire que c'était plus une révélation. Ouais. Enfin, on n'avait jamais vraiment parlé de ça avant.
Non, jamais.
Et ce retour... On s'est dit qu'un jour, on le ferait. On ne savait pas quand, réellement. Ça a pris... c'était en 2016. Ça a pris 2 ans avant qu'on bouge en Bretagne. Et puis, ici, on a encore pris le temps de découvrir d'abord la région avant de vraiment se lancer. Donc, ça a été... on a réellement commencé le projet ici il y a 3 ans maintenant. Mais donc, oui, on peut dire qu'il mature depuis quasi 7-8 ans.
Ouais. On est loin de démarrer.
Non, c'est bien, au contraire, c'est réfléchi parce que vous avez 2 enfants aussi, donc j'imagine que forcément ça rentre en compte sur un changement de vie. Pourquoi la Bretagne ?
Oh, ça, c'était le hasard total. Au début, quand on a commencé à regarder pour déménager, on était plus parti vers la Bourgogne, justement.
On a été visiter une maison dans le Morvan. C'était assez. Elle était fantastique. Mais on s'est rendu compte que ce coin-là était un peu trop perdu pour ce qu'on voulait faire réellement.
Ouais.
C'était trop loin pour que Tom puisse avoir des amis. Enfin, Tom, c'est notre fils. Ça aurait été un peu trop pour lui. Et la Bretagne...
Pourtant, on est en centre-Bretagne et on est quand même perdu, entre guillemets. Mais
ouais.
Là, dans le Morvan, c'était vraiment très isolé.
Ouais, totalement.
Parce que justement, quel était le projet ? Est-ce que vous aviez un petit peu réfléchi ce que vous vouliez exactement comme bien ? Si vous vouliez faire plutôt maison d'hôte, si c'était forcément gîte, si ça devenait l'activité principale pour l'un de vous deux, pour le couple ?
On a toujours eu l'idée de faire un gîte, pas une maison d'hôte, mais on ne savait pas ce qu'on voulait. En fait, on fonctionne beaucoup au coup de cœur. On fonce à chaque fois à tête baissée vers des trucs.
En gros, le projet a énormément évolué depuis le départ. Réellement, on est parti de cette roulotte, on avait en tête ce genre d'habitat. En fait, on avait en tête une tiny ici. On voulait réellement construire une tiny au départ, faire construire et l'amener sur le terrain.
Ici pour Douarenne,
ouais. Mais le destin a fait que en fait ce terrain avait une partie constructible et qui si on ne construisait pas dessus on la perdait, donc à un moment on s'est dit est-ce qu'on ne ferait pas construire quelque chose qui se rapproche plus d'une petite cabane. Et donc au final non, on ne savait pas réellement ce qu'on voulait. on a laissé tout se dérouler. J'aurais tendance à dire, je ne sais pas si c'est le karma, le destin ou autre qui fait beaucoup de choses, mais la Bretagne, par exemple, on y est arrivé, c'est un total hasard.
Ouais. On n'était jamais allé en Bretagne.
On a fait Groix, c'est à peu près tout ce qu'on avait visité en Bretagne avant de venir s'installer ici. Donc, ça a été un peu un coup de poker quand même. Et un gros coup de cœur, en fait, on est tombé par hasard sur la maison où on vit maintenant. On est venu la visiter, gros coup de cœur, on a décidé de déménager. Donc, c'était un pari un peu risqué dans un sens, parce que c'est partir loin de toutes nos familles. On savait même pas où on pouvait faire ce projet de gîte, mais on s'est dit que cette région avait l'air d'être sympa, que la maison était belle, et donc on s'est lancé. Donc ça fonctionne souvent comme ça, en fait. Les choses nous tombent dessus au fur et à mesure. Ce terrain-ci, par exemple, c'était pas une évidence, c'est aussi un coup du destin, je pense. La semaine avant de venir visiter ce terrain-ci, on avait des yeux sur un autre terrain près de chez nous, beaucoup, enfin à 50 mètres. Ouais. Et il s'est avéré que le terrain était vendu sur un coup de tête directement à un agriculteur, donc il n'y avait plus aucune chance qu'on l'ait. Deux, trois jours après, on tombait sur ce terrain-ci qui, comme un heureux hasard, appartenait en fait à des Liégeois, donc des Belges qui ont aussi déménagé ici. Ce qui est hyper surprenant. Enfin, donc on vient et puis on fait quelques photos. J'en poste une en story. Et là, j'ai un ancien collègue qui me contacte, qui fait « Tiens, ça serait pas le terrain de JB et Hélène ?» Je dis « Si, comment tu sais ?» Ah ben, elle était témoin à mon mariage, en fait. Et donc, tu te rends compte que...
Non, mais le monde est peu... Ouais,
exactement.
C'est dingue.
Et donc, ouais, il y a beaucoup de chance, beaucoup de destin, je pense, dans les projets qu'on fait.
Mais vous vous laissez aussi l'opportunité d'accueillir, justement, ce destin, ces coïncidences et tout ça. Parce qu'en fait, voilà, vous avez une idée, peut-être une envie, puis vous vous laissez guider et vous accueillez comme... Ouais. Vous accueillez aussi ces surprises, quoi. Donc, c'est génial.
On est rarement fermé à des changements ou des surprises comme ça, c'est certain, quoi.
Donc, si je comprends bien, vous visitez d'abord la maison qui deviendra votre maison principale, coup de cœur.
Oui.
Donc, vous vous dites, allez, c'est bon, on saute, sans avoir pour autant encore l'idée du terrain ou quoi que ce soit.
Non, du tout.
En vous disant, bon, ben, ça, dans tous les cas, le projet, il prendra forme d'une manière ou d'une autre, mais... on veut s'installer là, quoi.
Ouais,
ouais, exactement. C'est totalement ça.
Et ça se fait assez rapidement.
Alors, notre maison, on l'a vue en... Donc, Yannick a vu l'annonce, c'était quoi, fin 2017 ?
Ouais, ouais, décembre 2017.
Et en gros, juillet 2018, on emménageait.
Ah ouais, super.
Donc ouais, en gros, ça ouais, un soir, Chloé est au boulot en tant que fleuriste, donc la grosse période de Noël, je lui envoie l'annonce, elle la regarde, elle dit qu'on doit aller la visiter, et je pense que ouais, deux semaines après, on est en Bretagne pour la visiter.
Ouais. Mais ça veut dire que même dans vos recherches de lieux, il n'y avait pas de filtre de localité alors, c'était ouvert à toute la France ?
Non. Non, non, on était sur la Bretagne, mais où, on ne savait pas.
Non, en fait, la Bretagne s'est placée réellement, je suis belge, on a de l'hiver, on a de la pluie, on supporte pas les grosses chaleurs, enfin la plupart des Belges ne les supportent pas, donc on restait quand même dans une partie haute de la France par défaut, dans nos recherches, à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Et on s'est dit, bon, on veut avoir la mer pas trop loin et on veut avoir de l'espace. Et cette partie-ci de la Bretagne s'y prêtait totalement au final.
Donc, vous vous emménagez, vous vous installez. Est-ce que vous vous laissez un petit peu poser les affaires et vous approprier les lieux ? Vous vous dites de suite, bon, allez, on relance les recherches pour un terrain.
Non, 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 on n'a pas cherché de suite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité le coin un max tous les week-ends. On était en vadrouille pour pouvoir... connaître et découvrir en fait notre nouvelle région. Donc ça, c'était hyper important parce que accueillir des gens dans un endroit que l'on ne connaît pas, pour moi, c'était impensable en fait.
Et combien de temps vous vous êtes donné avant de relancer la machine ?
Il n'y avait vraiment pas...
Ouais, il n'y avait pas d'urgence.
Pas d'urgence, ouais. Donc on est arrivé en 2018, on a trouvé le terrain en 2020, ouais. Après la pandémie en fait.
Ouais. Et toi Chloé, tu continues à travailler, quoi, tu avais trouvé un nouveau travail en tant que fleuriste ou tu avais mis en arrêt pour cette période-là?
Non, je donnais des petits coups de main de temps en temps à une amie qui a un commerce, mais le but dans ce déménagement, ce n'était pas de reprendre mon travail à temps plein, c'était vraiment de consacrer tout mon temps au gîte et au terrain à côté.
D'accord. Donc, vous trouvez finalement le terrain. L'idée, donc, de remplacer la tiny par un concept, on va dire, dur, construit, mais toujours dans l'esprit d'une cabane. Ça, c'était évident. Pour vous, vous vouliez quelque chose de plutôt naturel, plutôt sur une petite capacité?
Oui, c'est ça. On n'est pas trop fan des grandes surfaces.
Ouais.
Et puis, il fallait aussi penser logistique, grosse construction ou gros... Enfin, même si c'était...
Ouais, il y a ce mélange de... plus c'est grand, plus ça va te prendre du temps, il faut l'entretenir. Et aussi, simplement, on a quand même une période où les habitats ont grandi sans réelle raison. Et donc, tu finis avec des pièces... pour avoir un grand nombre de pièces, toutes les pièces de plus en plus grandes, et c'était pas du tout dans notre optique. On est le déménagement de la Belgique vers la France, on est passé d'une maison moyenne à une beaucoup plus petite maison sur certains points. On a eu vraiment cette démarche de réduire notre consommation, réduire notre empreinte, réduire nos possessions, etc., et de ne garder que l'essentiel. Et c'est ce qu'on voulait aussi partager dans cette cabane, qu'il n'y avait pas besoin que ce soit gigantesque pour que cela soit accueillant et chaleureux au final.
Et même quand on part en vacances, finalement, on ne se tourne jamais vers des grosses habitations. On est toujours sur des petites surfaces, en fait.
Ouais, plus sur du minimalisme, du coup. Totalement. Et effectivement, j'imagine que vous vouliez peut-être aussi... Un bien qui se fonde aussi dans la nature, parce que c'était, si je ne me trompe pas, quelque chose qui vous tenait à cœur aussi, le côté peut-être permaculture et jardin, etc.
Oui,
au final, la cabane n'est qu'un élément sur le terrain, et donc c'est pas l'élément principal du terrain. C'est où tu dors, mais il y a tout le reste, il y a toute la vie autour, et c'est vraiment un élément parmi le décor, quoi. Mm.
Et comment vous avez imaginé cette cabane? Vous vous êtes fait accompagner, il me semble, par un cabinet d'architectes. De toute façon, vous étiez obligé pour poser un permis, j'imagine. Oui. Mais est-ce que vous l'avez trouvé facilement? Est-ce que c'est vous qui l'avez dessiné, en tout cas, dans une première ébauche?
Non. Nous, on a fait les tableaux Pinterest, comme beaucoup, je crois. On a essayé de sortir un maximum de choses qu'on avait en tête, justement par des photos qui étaient dispo sur Pinterest. On a transmis toutes nos idées à Johan, qui a été notre architecte et qui nous a fait les plans, qui a dessiné la cabane. Et après, l'intérieur, c'est Léna qui nous a aidés pour tout ce qui est décoration.
Ah d'accord, donc le choix des revêtements, mais aussi le mobilier?
Non, le mobilier, c'est nous. Léna nous a plus accompagnés sur...
l'aménagement des volumes, comment mettre une cuisine suffisamment complète dans un si petit espace, comment agencer une partie salon,
l'escalier,
puis elle a amené des matériaux qu'on ne connaissait pas ou autre. Par exemple, dans la chambre parentale en haut, il y a un papier peint en lin qui est fait de fleurs, en fait, et elle nous a amené des petites touches à gauche, à droite, en plus d'un bon guidage pour vraiment être bien encadré pour que ce petit volume soit vraiment habitable et agréable, quoi, parce que
on l'optimise un maximum.
Ouais, c'est génial. Et puis, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle vous a bien cerné pour pouvoir apporter des idées aussi créatives comme le papier peint. Effectivement, c'est super.
Oui, totalement. Bon, et puis, encore une fois, les tableaux Pinterest. Ça aide beaucoup.
Ils sont tous les deux originaires de Bretagne ou vous avez travaillé à distance?
Non, ils sont... Alors, Léna, elle est de Morlaix, donc c'est 20 minutes de chez nous. Mm-hmm. Et Johan a travaillé... Non, Léna a travaillé pour Johan, je crois.
C'était quoi? Ouais, ils étaient ensemble. Ils se connaissaient, en fait. D'avant, et Johan, lui, est de vers...
Plougastel.
Donc, vraiment D'accord. au sud de Brest. Et non, ça, c'était un des trucs qu'on voulait vraiment travailler avec des gens du coin pour tout, en fait.
Et ce premier travail de dessin et autres, ça a été assez rapide?
Oui, quand même.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose à retravailler dès le début. Enfin, on a dû faire des changements sur des recommandations des architectes de France par rapport à certaines baies vitrées, fenêtres et autres. Puis on a dû retravailler sur la grande baie vitrée au moment de la réalisation parce qu'il y a toujours une différence entre le dessin et ce qui est physiquement faisable par rapport aux matériaux, à la structure, au budget, etc.
En parlant de budget, est-ce que vous avez fait un emprunt pour pouvoir réaliser, déjà pour faire l'acquisition du terrain et puis pour pouvoir l'aménager, est-ce que vous aviez peut-être un peu d'argent de côté pour cette réalisation?
Le terrain, on l'a acheté en fonds propres et par contre, la construction, on a fait un emprunt, mais on a dû remettre au bout dans nos fonds propres en fin de construction. Il y a toujours des petites surprises.
Le budget a explosé.
Oui, c'est exactement ça. Il y a un moment où soit tu dois faire des compromis, soit tu dois aller creuser dans ton portefeuille quelque part et retrouver encore un petit peu.
Faire les fonds de poche pour...
Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il y avait des mauvaises surprises ou parce que y a des choses qu'on n'anticipe pas?
Un peu les deux. Ouais. En gros, par défaut, le budget initial a explosé. C'était juste après le Covid. C'est le moment où les matériaux ont commencé à prendre 30%.
Ouais, ça en a pris cher.
Ah oui.
Donc, par défaut, le budget augmente déjà là. Et puis, la réalité de ce qu'on voulait par rapport aux estimations de départ ont fait que ça avait aussi une vingtaine de pourcents en plus, je dirais, globalement.
Ouais, ouais.
Vous aviez déjà fait de la rénovation ou en tout cas du bricolage?
Ah non, du tout. Non. Non. Moi, j'admire les gens qui font ça eux-mêmes, franchement. Moi, j'en suis pas capable, mais vraiment, avec la meilleure volonté.
Non.
Vous avez quand même fait des petites choses vous-même.
Oui.
Comme moi, j'ai suivi et j'avais l'impression qu'il y avait quand même une partie que vous avez gardée pour vous, la peinture et autres, donc c'est pas rien non plus. Hein.
Oui, si, bon.
Oui, mais par exemple, quand tu vois la charpente, donc c'est une cabane en charpente traditionnelle, quand tu vois les artisans la faire, etc., tu te dis, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Moi, j'ai deux mains gauches aussi, donc c'est assez compliqué. Quand on est arrivé en Bretagne, une des premières choses que Chloé a acheté, c'est des strips au cas où je me blessais. Parce que j'avais acheté, on a des poêles à bois à la maison, donc j'ai investi dans un peu de matériel, hache et autres. Et effectivement, ça a servi très vite, quoi. J'ai fini aux urgences avec les doigts entrecoupés un petit peu assez facilement. Donc, il valait mieux pas que ce soit moi qui construise ici, par exemple.
Non, mais ça va. La peinture, c'est gentil. On maîtrise, mais... Enfin, on maîtrise.
Oh, mais c'est déjà ça.
Sans trop de coulures.
Ça se voit pas sur les photos.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Et j'ai aucune patience, donc c'est très drôle aussi.
Pour faire un simple trou dans le mur, je vais aller appeler mon papa à la rescousse. J'ai tellement peur de faire une bêtise que...
Ça n'a pas réveillé en vous
Si, un petit peu. On bricole un peu plus depuis.
Oui, on s'y met tout de suite.
Il y a un petit meuble qui est posé maintenant. C'est notre premier meuble, donc ça, oui. Mais au tout début, ici, j'ai essayé d'afficher des choses, de faire des trous dans le placo et je m'énerve tellement vite à faire ça que J'ai dû arrêter, faire un pas en arrière et dire « Non, c'est bon, demande à ton papa de nous aider là parce que ça va vraiment pas.
» Bah après, c'est bien, vous êtes lucide sur votre valeur ajoutée ou pas.
C'est exactement ça.
Donc, la maison, est-ce que c'est une ossature bois également ?
Oui.
Est-ce que ça se fabrique en atelier en amont et puis ça se monte après sur le terrain ?
Oui, c'était assez fantastique ça. Donc, en gros, c'est deux charpentiers du coin aussi qui ont fait beaucoup de maisons en bois sur la commune. Et donc, ils ont commencé à la préparer dans leurs ateliers. Ils avaient tout monté, ils ont tout vérifié au sol. Donc, on a été leur rendre visite pendant ces travaux-là. C'était assez impressionnant à voir. Et puis, ils ont tout redémonté, ils ont mis sur remorque, ils sont arrivés ici, ils ont monté c'était comme des blocs Lego, ils étaient 5 et en 3 jours, la structure qui a apparu.
C'est ouf.
Et donc, on voyait tous les volumes directement, c'était assez impressionnant à voir.
C'est dingue, ouais. Et justement, alors, tu l'avais dit un petit peu avant, Chloé, sur le fait que vous vouliez quelque chose d'assez petit, une petite capacité, etc. C'était sûr que c'était 4 couchages. Est-ce qu'au tout départ, vous étiez peut-être un peu plus quand même jusqu'à 6 ou pas? Ou est-ce que ça, c'était une évidence ou ça s'est fait plus en discutant avec les archis?
Non, on est parti sur... donc, on annonce 4 couchages, mais en réalité, on peut aller jusqu'à 5 couchages. Parce qu'on a quelques amis qui ont 3 enfants. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de logements où on peut accueillir une famille avec 2 enfants. Ou alors, on est tout de suite sur des plus gros gîtes. 6 personnes, 8 personnes, etc. Donc, on a vraiment voulu jouer la carte des 3 enfants.
C'est 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants, en fait.
D'accord. Donc, la maison se monte, hop, en 3 jours. D'un coup, il y a toute l'ossature et autres. Après, ben, j'imagine qu'il y avait tout ce qui était isolation, les cloisons, etc. Combien de temps ça a mis avant de, ben, vous passer à la peinture, par exemple ?
C'est un peu traîné. Hein.
Ouais.
Ah ouais, c'est vrai ?
Vous avez annoncé un chantier assez rapide et puis finalement, pas du tout.
Alors moi, j'ai regardé sur ton Insta et j'ai vu un premier post, c'est novembre 2021, où on voit qu'ils commencent à installer l'ossature.
Ouais, c'est ça.
Ouais. En décembre, ils avaient fini ordo order. Pour la maison.
Et mars 2022, je pense, l'intérieur commençait réellement.
Oui, je crois que c'est ça.
D'accord.
Et on nous a livré le chantier, les peintures, on a fait ça l'année dernière avec mon papa, mais vraiment tout, que tous les corps de métier aient terminé, c'était 2 jours avant qu'on ouvre.
À peu près, ouais.
Ah oui, d'accord. Donc, vous diriez que ça a pris... Une année quand même, alors ?
Ouais, ça a pris une bonne année et demie, je dirais, globalement. Ouais. Donc, c'est pas que c'est tout petit. Ouais. Enfin, Mais il y a eu des périodes où il y avait quasi personne. Hein. On a eu quelques soucis qui ont fait que ça a pris du retard, qu'il y a eu des périodes creuses. C'est principalement des trucs comme ça. Hein. Réellement, de travail, il y a un petit peu moins d'une année, je dirais.
Et il fallait, j'imagine, créer tout le réseau aussi, électrique, eau... assainissement, etc. Donc, c'était quand même des travaux de grosse ampleur, même si, comme tu dis, Yannick, ça restait une petite capacité.
Oui, mais en fait, quand on parlait du budget et tout ça, on s'est aussi rendu compte très vite que la taille de ta maison, y a toujours un énorme paquet qui est constant, en fait.
Oui.
Donc, il y a un coût qui est constant. Et effectivement, toute cette installation électrique, de faire venir... le téléphone, de faire venir le tout à l'égout, etc. C'est, peu importe la taille de ta maison, ça va être le même chantier au final.
Bien sûr.
Et donc, c'est toute cette partie-là a été assez impressionnante. Puis on a eu aussi le terrain a dû être réaménagé aussi en partie. Donc ça aussi, ça a pris un peu de temps, ça a traîné aussi là-dessus. On a abattu des monticules de terre pour aplatir et agrandir le terrain. Donc, il y a eu en plus de la cabane.
Oui, c'est vous qui avez fait le suivi de chantier ou c'est l'architecte qui vous a accompagné en tant que maître d'œuvre sur ça ?
Non, c'était nous.
C'est nous. On n'y connaissait rien, donc encore heureux, l'architecte et la décoratrice d'intérieur, donc Johan et Lena, nous ont vraiment aidés là-dessus. Et aussi, au final, les charpentiers, en général, ont tendance à faire le suivi de chantier. Donc, nous ont aidés aussi, parce que, comme pour beaucoup de choses où on fait confiance dans le destin, on s'offre les surprises, on aime bien, en fait, aussi faire confiance aux gens, simplement.
Bien sûr.
Donc là-dessus, ça a été s'entourer des bonnes personnes et les laisser nous guider un petit peu aussi. Est-ce qu'un jour on se fera avoir? Sans doute, mais c'est pas encore arrivé, donc ça va.
Et qu'est-ce que vous faisiez en plus pendant ce suivi de chantier? Bon, je sais que ça prend beaucoup de temps, même si c'est pas nous qui physiquement montons une cloison ou des choses comme ça, il y a quand même beaucoup de boulot. Est-ce que toi, Chloé, tu commençais à travailler la terre et peut-être à planter des choses déjà? Yannick, est-ce que toi, tu avais un rôle plus back-office sur une préparation d'un site ou autre? Est-ce que vous réfléchissiez aussi à la suite?
Oui, bah oui, c'était totalement ça. Yannick était plus sur la partie technique. Et moi, j'étais plus dans le jardin à gratouiller, à planter, à essayer d'imaginer les grandes lignes du terrain pour que ce soit agréable à vivre. On part d'une friche agricole, donc c'était un peu le bazar. Beaucoup d'ajoncs, beaucoup de fougères, beaucoup de genêts. Il y avait quasi tout à faire. Et tout à planter aussi. On a commencé à replanter un verger, on a agrandi le potager que les anciens proprios avaient commencé. Bon, on s'est pas ennuyé hein, sur eux.
Moi, j'ai combattu la bureaucratie française pour toute la paperasse, ouais. Des assurances, des prêts, etc. C'était magnifique. Et puis oui, il y a la partie... présence en ligne, site internet, etc. Ça, c'est un peu nous deux. Enfin, c'est moi qui avais les mains dessus et elle avait la tête au-dessus de l'épaule à faire bouger les choses.
Parce que très vite, vous vous êtes dit, bon, il faut qu'on trouve un nom, il faut qu'on crée un Instagram. Vous saviez sur quelle plateforme vous vouliez commercialiser, etc. Vous avez vraiment réfléchi à tout ça en même temps que la construction? Est-ce que c'est venu un peu plus tard? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était facile? Toutes ces questions.
On avait fait un compte sur Instagram assez tôt. Je ne sais plus quand on a commencé.
Aucune idée de quand on a commencé.
Après, pour la commercialisation sur les plateformes, etc., ça, on a vraiment regardé presque au dernier moment.
En fait. Ouais, c'était au dernier moment. Pendant tout ce temps-là, on a aussi pris le temps pour voir quel statut on allait prendre, comment on allait... Toute cette partie-là qui... Je pense que sans les clés du gîte, on n'en serait pas, enfin, on n'aurait pas eu aussi facile de choisir, on y serait peut-être encore.
C'est chouette ça. Et comment vous aviez connu la plateforme ou peut-être le podcast en premier, je ne sais pas.
Non, c'est Catel qui.
Oui, Bleu New.
Ouais. Mm-hmm. J'avais contacté Catel pour lui demander quel statut elle avait pour ses gîtes. Et elle m'a dit, est-ce que tu connais les clés du gîte? Je dis, non, qu'est-ce que c'est? Tu dois aller voir, c'est trop bien. Et effectivement, ça a répondu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos questions. Ouais.
Est-ce que vous étiez accompagnée par un expert comptable?
Non, on est nuls pour ça. On devrait, en fait. On procrastine.
Ah, toujours? Pas encore maintenant?
Non, même maintenant.
Et quel statut, alors, finalement, vous avez choisi? Une micro-entreprise?
On s'est mis en micro, en micro-entreprise, parce que c'est ce qui nous semblait le plus simple et le plus facile à modifier. Après, je ne sais pas, peut-être qu'on se trompe. Hein.
Non, ça me paraît bien.
S'il faut changer, on changera. Mais après, comme on a commencé il n'y a pas si longtemps...
Parce que la micro, elle est sur l'activité uniquement d'hébergement ou tu veux faire aussi l'activité... Alors, je ne sais pas quelle est ton idée par rapport au jardin et autres. Est-ce que j'imagine tu veux peut-être créer des ateliers ou peut-être faire de la revente de tes fleurs?
Alors, par rapport au jardin, j'aurais bien aimé plus tard, pareil, je me donne un peu de temps, faire une micro-culture de fleurs. Pour pouvoir après vendre des petits bouquets
D'accord.
Ici aux locaux. Donc quand j'ai déclaré Douarren, j'ai mis donc que c'était de la de location de meubles et de tourisme et de la vente.
D'accord, oui, tu as pris les deux objets pour oui. sur la micro pour pouvoir développer l'autre activité oui. aussi. Génial, super. Ben non, mm-hmm. c'est très bien ça, je crois. et très chouette. Et est-ce que ça vous a paru être compliqué justement de devoir tout gérer d'un coup? Quoi, moi, c'est ce que j'avais ressenti aussi. Et encore, moi, mon gîte, il était déjà créé. Mais en fait, effectivement, il faut faire toute la paperasse, comme tu as dit, Yannick. Mais en même temps, déjà anticiper la commercialisation, réfléchir au mobilier, faire déjà des commandes avant même qu'il y ait vraiment des murs bâtis. Quoi, tout est au même moment, est-ce que vous avez ressenti la même chose que moi?
Pour tout ce qui est déco, mobilier, tout ça, ça n'a pas été une contrainte ni une pression
Non, c'est tout le reste. Moi, ouais, il y a ouais. le nombre de fois où j'ai dû dire à Chloé, non, c'est bon, on arrête. ouais, j'ai mon travail à plein temps à côté, on avait toute la gestion ici, toute la paperasse, tout préparé. Il y a des moments où j'étais acheté, non, c'est trop. C'est trop.
Oui, non, mais je comprends.
Mais au final, ouais, donc ça a été stressant pour ça par moment. Mais j'ai tendance aussi à être extrême à chaque fois. Hein, donc, je passe d'un côté à l'autre très facilement. Mais donc, ouais, il y a des moments où c'était vraiment stressant, où j'en pouvais plus devoir faire des allers-retours avec les assurances et tout ça. Ouais. Encore toujours maintenant parce que il leur manque toujours un papier qu'on n'a toujours pas et qu'on doit toujours aller rechercher. Enfin, on a aussi tendance à laisser traîner. Et donc, ouais, on a pas. Enfin, moi, j'ai émis l'idée d'arrêter plein de fois, mais en même temps, je suis tellement heureux maintenant que ça valait le coup. Mais effectivement, ouais, c'était une période assez stressante, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qui te remotivait? Est-ce qu'il y a vraiment un truc en particulier qui, effectivement, effaçait un peu ce coup dur et disait, allez, on va y arriver? C'est de te projeter sur ce que ça allait donner.
C'était juste se reprojeter. Et en fait, j'ai tendance à exagérer les choses et donc simplement de pouvoir en parler avec Chloé. Je disais, mais non, ça va, regarde. Et puis, une fois qu'elle remettait tout dans l'ordre, ça redevenait gérable et je pouvais éviter de regarder tout d'un coup, quoi. Et donc, reprendre les choses petit à petit, mais ça...
Ouais, des fois, il faut se poser. Voilà, c'est ça. Prendre un peu de recul, se dire « Ah bon, en fait, je me sens dépassée, mais au final, bon, ça, c'est la priorité, mais ça peut attendre Exactement. Un peu. » Et puis, moi, je trouve que ça, c'est un super conseil, effectivement, ne pas hésiter à se poser, mettre sur papier aussi des fois. Alors, c'est peut-être trop personnel, mais moi, je trouve que d'écrire, faire des listes, revérifier avec le planning et se dire « Ah bon, ça, finalement, ça peut attendre 2 mois et c'est bon, ça me libère un poids sur les épaules.
Ouais. » C'est totalement ça. Ouais. Et simplement, encore une fois, être bien entouré. Parce que je sais que j'ai tendance à exagérer, mais c'est aussi pour ça que Chloé est là, parce qu'elle a tendance à garder les pieds sur terre par rapport à moi là-dessus. Donc, on fait une bonne équipe pour ça.
Ouais.
Je stresse et puis elle me ramène sur terre.
Et la famille, elle prenait le projet comment? Est-ce que vos parents ont soutenu? Est-ce qu'ils ont compris? Je crois que tes parents, Chloé, ont déménagé, non? Pour se rapprocher de vous. Peut-être que j'ai mal compris, mais comment ils réagissaient?
Ça n'a jamais été formulé clairement. Mais je pense qu'ils sont fiers de nous, ouais, de ce qu'on a fait.
Mais c'était pas du genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes fous.
Non, jamais, jamais. Non, pour ça, on a de la chance.
Ah ouais, c'est souvent, mais vous quittez un CDI, mais vous prenez beaucoup de risques.
Ouais. Ouais, mais là, en fait, on a déjà pris les risques avant, réellement, entre guillemets, quand Chloé en Belgique a arrêté de travailler.
Non, quand on a su qu'on allait déménager, ouais. qu'on voulait déménager.
On a commencé, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est est-ce qu'on arrive à vivre sans le salaire de Chloé. Donc, on le mettait totalement de côté, ce qui nous a bien aidé pour avoir des fonds après.
Ouais.
Mais ça a permis de se dire, non, en réduisant nos dépenses, etc., mon salaire est suffisant, ça suffit pour vivre. Mm. Et donc, ça a permis de faire ça en Belgique. Et puis, on a transposé ça en France. Et en fait, les gens ne le croient jamais quand je le dis, mais un employé en France est mieux loti qu'un employé en Belgique niveau impôts et taxes. Et donc, en gros, ça nous a permis d'avoir ce petit coussin de sécurité parce qu'en fait, mensuellement, ben, on avait un peu plus. Et donc, il n'y a jamais eu de réelle mise en danger, si ce n'est que, ben, à un moment, oui, on a fait le prêt, etc., mais on pouvait toujours faire marche arrière facilement et on n'a jamais vraiment... On ne s'est pas mis en danger réellement. Non, donc, c'est toujours même si on fonce facilement, c'est toujours réfléchi suffisamment, je pense.
Ouais. Ah, complètement, ouais, ouais. Mais ça, c'est aussi super d'avoir commencé par bon, ben, si on réduit un salaire, est-ce qu'on arrive à se réorganiser? Est-ce qu'il y a de trop gros sacrifices ou pas? Ah non, finalement, on arrive à mettre de côté et c'est super. Donc, c'est cool. Et les enfants, ben, ils étaient petits, hein, mais ils étaient enthousiastes.
Tom avait, il avait quoi, 4 ans quand on est parti de Belgique. Et Louise est née. Pendant le Covid, donc elle n'a connu que ça. Mais Tom, peu importe où on va, je pense qu'il sera toujours...
Oui, et ici, maintenant, il est... Non, maintenant, il ne veut plus partir d'ici. Il est bien en
Finistère. Oui, parce qu'il a ses copains.
Parce qu'il a ses amis et tout ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils veulent tout le temps venir à la cabane aussi. Donc, même eux, ils ont vu que le projet, effectivement, y a des moments où on était moins disponible pour eux, c'était plus dur. Parce qu'on devait tout le temps faire plein d'autres choses, mais après, ils voient le résultat et ils viennent ici, ils se mettent dans le filet et ils passent l'après-midi à lire, au final.
Oui, et puis même quand on fait un accueil ou une sortie, Tom demande pour venir avec. Parfois, on est obligé de dire non, mais... ouais.
Ah, c'est super. Non, mais c'est chouette de voir que, ben, ils se sentent aussi bien dans la cabane et qu'ils ont plaisir à vous accompagner. C'est...
Ouais, je pense que c'est, ouais, parce qu'on n'avait vraiment pas envie que ça empiète,
Ben c'est ça.
Que ça empiète sur la vie de famille.
Ouais. Et le fait qu'ils s'y sentent bien, ça, c'est déjà une preuve qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait vraiment créer ce refuge comme
un lieu de famille.
Un lieu de famille, ouais, au final, et donc un lieu de vie pour nous où on aurait aimé venir, en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs, est-ce que vous y avez passé du temps,
ouais,
vous-même? Ah, super!
On n'y a pas encore passé assez de nuits. On a fait 0 nuit dans la cabane.
Cordonnier, le...
Ah,
on
est...
Ouais, on est...
Mais c'est toujours ça.
On aura le temps à un moment.
Non, mais au-delà du temps, quoi, vraiment, je pense que c'est... Il faut prendre ce temps-là parce que... Bah déjà, c'est aussi une concrétisation pour vous que d'y dormir et y prendre un peu de bon temps. Et aussi, tout bêtement, mais ça permet de se rendre compte parfois de petits ajustements, oui, à opérer pour encore un meilleur séjour pour ces voyageurs. On se rend compte que, ah mais ça, c'est pas très pratique quand je sors de la douche, j'ai pas de quoi.
Oui.
Je prends un exemple vraiment au hasard, mais c'est vrai que ça, c'est super de pouvoir y habiter un peu. Le, ouais, temps d'un week-end, d'une nuit, pour vous approprier les lieux et être encore mieux conseillé envers votre clientèle.
Ouais.
C'est totalement le retour qu'on a eu.
Ouais. Donc, quand est-ce que vous avez ouvert officiellement ce refuge et que vous avez accueilli vos premiers locataires?
Début mai.
Ouais.
Ouais. C'était début.
Et c'était une deadline que vous vous étiez donnée, ou là encore vous vous étiez rien imposé en vous disant, bon ben, on sera prêt quand on sera prêt.
Tu veux la première date d'ouverture qu'on pensait?
Ah, oui.
Juillet 2022.
Ah, ouais.
Au début, on s'est dit, on pourra ouvrir pour l'été, ça va le faire.
N'importe quoi. C'est vrai,
c'est... Et une fois que juillet est passé, on s'est dit, non, c'est bon, on ouvrira quand on sera prêt.
Ah, mais c'est bien, déjà vous vous en êtes imposé qu'une fois, parce que des fois c'est au bout de 3 fois on se dit, bon là on arrête de se donner une date.
Ouais, non, la première fois c'est, allez non c'est bon, ça va le faire, et puis non, ça le fait pas, on va simplement laisser couler, on verra et quand, oui, ce sera prêt.
Après, vous aviez financièrement pas d'urgence, ou quand même, bon, j'imagine que toujours un petit peu, mais c'était pas non plus le couteau sous la gorge pour faire de rentrer de l'argent.
Alors, le prêt a commencé à partir en juillet, justement.
Ouais.
Oh, c'est ça.
Ah ouais.
Donc, ouais, ça a
vous été... avez pas pu décaler ça?
Non.
Non. On l'avait déjà décalé, non, un petit peu.
Ouais. Ouais.
Mais donc, ça a été un peu plus serré pendant quelques mois, on va dire. Mais On a été tapé beaucoup plus dans les dépenses, dans les réserves que ce qu'on voulait.
Oui, c'est ce que vous disiez au départ. Ouais. Et est-ce que vous avez fait des concessions? J'ai cru comprendre, Yannick, que tu disais... Quoi, moi, j'ai compris, sous-entendu, que non, pas forcément, parce que bah, vous aviez une idée de ce que vous vouliez et il fallait mieux puiser un petit peu dans les économies, mais aller au bout du projet. Mais est-ce que c'est bien ça ou finalement, vous avez dû faire des concessions?
Il y en a des petites.
Oui, des petites concessions à droite, ouais. À gauche, mais qui peuvent se corriger en fin de compte. Hein.
Au final...
Mais le produit en lui-même, il est tel que vous... le souhaitiez dans les grandes lignes.
Oui, c'est vraiment du détail qu'on va pouvoir corriger quand, ben, une fois que ça sera bien mis en route, etc., et qu'on pourra se dire qu'on peut refaire des investissements dedans. Mm. Mais c'est des petites choses réellement, c'est pas sur les volumes.
Oui, il faut
sur...
aussi se dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver plus tard.
Exactement, donc en fait, dans les grandes lignes, en gros, même dès le départ, enfin, dès qu'on était dans la construction, il y a eu des changements qui se faisaient, des choses en plus qu'on n'avait pas pensé et qui sont géniales. Par exemple, la terrasse fait quasi tout le tour de la cabane. Ouais. Au début, elle devait être un peu plus petite. Et en parlant et en voyant les volumes, en voyant les choses, on s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens. Enfin, il fallait l'agrandir un peu. Et donc, l'agrandir voulait dire qu'on devait réduire quelque chose. Enfin, qu'on devait... réduire le budget sur d'autres choses. Et donc, il y a eu des choix qui ont fait que, ouais, on s'est dit, bah, ce sera suffisamment bien comme ça. Et on verra, on revisitera si c'était vraiment le cas ou si on veut changer d'ici quelques années, quoi.
Mais je pense que c'est aussi très sage de faire ça. Et je pense que peut-être vous l'avez déjà expérimenté. C'est que des fois, on a une idée, une projection et... quand ça se concrétise un petit peu plus, nos goûts ont changé ou certaines contraintes font qu'il faut revoir. Et finalement, on se dit que c'est un bien pour un mal. Non, un mal pour un bien plutôt. et que finalement, c'est mieux et qu'il faut parfois se laisser un peu de temps et, pour confirmer ou non une envie, un achat, une dépense, etc. Moi, je vois qu'au cours du temps, mes envies, elles ont vachement évolué et certes, et des fois, je me dis, je me félicite qu'il y ait eu un obstacle, parce qu'au final, c'est mieux ce qu'il y a maintenant que ce que j'aurais voulu faire au départ.
Oui, non, c'est totalement ça. Et c'est ça, le projet est vivant depuis le début, et c'est ça qu'on aime aussi au final. Mm. Et bah, parfois, il faut. Enfin, oui, ces concessions sont effectivement géniales parce qu'on voit que c'est un bon choix et c'est. De toute façon, aller dans la perfection veut dire qu'on ne l'atteindra jamais. Et donc, on va ne faire qu'une chose, c'est retarder le plaisir qu'on aurait pu en retirer de l'ouvrir. Enfin, est-ce que si on avait voulu aller tout au bout des choses, on aurait ouvert en mai 2023 ou en juillet 2025? Et voilà, enfin, ça fait 2 années où on peut juste profiter et accueillir les gens, quoi.
Oui. Et puis, c'est justement, cette perfection, est-ce que tu la reconsidères pas à chaque fois aussi? Et donc, en fait, c'est sans fin.
Exactement.
Génial. Donc, vous accueillez vos premiers voyageurs, la boule au ventre. Tout a été terminé 2 heures avant. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes excitée de pouvoir enfin... faire vivre ce lieu à travers d'autres personnes?
Tu finis de bourrer le coffre de tout ce qui traîne juste avant. Et boule au ventre, non, on était quand même...
excités, oui.
On était excités, oui, mais pas inquiets.
Non, on savait que ça nous plaisait, on savait que c'était... Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais non, on savait que c'était beau, que le projet nous plaisait et que bah, si ça plaisait pas aux gens, en fait...
C'est subjectif, c'était des goûts, quoi.
Ça aurait été surprenant, quoi. Ouais, ouais, ça aurait... Et si les gens viennent en ayant vu le lieu, c'est... Enfin, on a eu comme retour que le lieu est vraiment... ressemble aux photos. Donc, si les gens le louent sur photo et arrivent, hein, il y a peu de chances qu'ils puissent être déçus réellement, au final.
Est-ce que vous avez douté de l'intérêt... De voyageurs pour votre lieu? Je m'explique. Par exemple, vous n'êtes pas à proximité d'un grand site touristique, etc., même si la Bretagne est très touristique. Est-ce que vous avez pu douter un petit peu de ça et de vous dire, bon, est-ce qu'ils vont venir que pour la beauté du refuge? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'une expérience plus complète?
Oui. Ça a été source de nuit blanche quand même. Est-ce qu'on est au bon endroit pour ouais. faire ça? Et en fait, les gens qui viennent dans le coin, c'est du passage. Souvent, ils viennent voir la forêt à côté, ils viennent voir la vallée des Saints. La Bretagne, il n'y a rien à faire. Hein, c'est le littoral qui attire le plus. Donc, ça a été aussi un challenge de faire découvrir ce centre Finistère qui est vraiment magnifique.
Oui, ça faisait vraiment peur au départ ouais. parce que nous, on voit la valeur du lieu, on voit la valeur de la région. Ouais. On l'a visité, on la connaît, on peut en vanter les mérites totalement, mais effectivement, pour la plupart des gens, la Bretagne et même pour même l'Office du tourisme jusqu'à il y a peu, c'était on vend les côtes bretonnes.
Ouais.
Et le centre Bretagne, ben c'est l'endroit où il y a les ploucs et les cutéreux, quoi. Ce qui est totalement faux, mais c'est l'image qui était donnée. Et c'est triste parce qu'en fait, c'était vraiment, ça nous a fait peur au départ, mais on connaissait la valeur des choses et on s'est dit que ben en partageant notre amour pour le coin, ça est-ce que ça suffirait? Ben, on pense que oui, mais est-ce que ça suffira réellement sur le long terme? Je pense que même la Bretagne est en train de se rendre compte qu'elle a des joyaux à l'intérieur qui ne sont pas encore mis en valeur suffisamment.
Tout à fait.
On sent totalement le changement, même dans la communication de l'Office du tourisme breton ouais. sur l'intérieur Bretagne. Et donc, on voit qu'ils sont en train de le pousser vers l'avant. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est arrivé, enfin, on a eu très peur, mais on se rend compte que maintenant, on est au bon moment pour être là, en fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, vos voyageurs, ils vous connaissent comment? Est-ce qu'il y a un canal qui ressort un petit peu ou est-ce que c'est l'Instagram, peut-être, qui leur permet de vous connaître?
Je pense qu'Instagram joue beaucoup.
Oui.
Après, on a des réservations en direct, mais on ne demande pas forcément comment,
d'où ils vous
ouais.
ont.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et après, vous êtes sur quel canal de distribution?
Alors, on est un peu sur tous les canaux pour le moment. On est sur Airbnb, Booking, WeGo, Greener, Gringo, Engkey. Mais réellement, c'est parce qu'au début, comme on disait, on avait un peu peur d'être au mauvais endroit par rapport à ce qu'on faisait. Donc, on a voulu maximiser la visibilité. Mm. Et des gens nous trouvent uniquement via Airbnb, uniquement via Booking et viennent louer directement. Donc ça marche, mais notre but à long terme est quand même de pouvoir
se passer
de ces plateformes quoi, et d'avoir un accès direct et de ne pas avoir d'intermédiaire en fait.
Aujourd'hui, je crois que vous travaillez avec Logify,
oui.
c'est ça? Et vous en êtes content?
Oui, oui.
Combien ça vous coûte à peu près?
C'est une centaine d'euros l'année, je pense.
Non, c'est un peu plus, 250, je crois, l'année.
Ouais.
Je t'ai dit qu'on était un petit peu nuls pour tout ça.
Alors, si tu veux, je te dis comment ça s'est passé pour ça. Un soir, entre 21h et minuit, j'ai commencé à essayer toutes les plateformes. Je me suis inscrit sur toutes. Donc, je me fais encore spammer par la plupart des autres. J'ai regardé un petit peu ce qui me plaisait le plus, les meilleures intégrations pour notre site web aussi, parce qu'on voulait avoir ce module en direct, etc. Et j'ai ce côté un peu, je travaille sur du logiciel en ligne, donc une bonne interface, comprendre, etc. Si après 5 minutes je comprenais pas une plateforme, j'envoyais un mail pour supprimer mon compte. Quoi. Et Logify est celle qui est restée, aussi simplement que ça.
Super. Et vous en êtes très content du coup pour l'instant?
Oui, c'est super facile. Hein.
Oui.
Enfin, moi qui suis vraiment nulle en informatique, je n'ai aucun souci à l'utiliser.
Et c'est en français ou
oui.
tu...
Oui, oui. Non, tu peux le mettre en français.
D'accord, ok. Donc j'ai vu grâce à votre Instagram que vous travaillez avec Megan de M l'agence.
Oui.
Je pense que c'est assez récent, effectivement. Elle travaille en tant que... relations presse, est-ce que c'est ça son rôle? Est-ce que c'est plus élargi? Comment elle vous accompagne?
Alors, Megan et Gabrielle nous ont déjà organisé un shooting photo dernièrement pour justement avoir des belles images pour le communiqué de presse. Donc, elles ont travaillé sur ça. Et puis, elles ont aussi revu notre site internet, donné des petits conseils pour changer quelques photos en ligne, du texte.
C'est beaucoup de conseils au niveau de la communication, comment un peu, parce que c'est pas notre métier, donc on faisait notre mieux sur Instagram, et c'est toujours bien d'avoir un deuxième avis, un petit accompagnement. Donc là-dessus, elles nous ont un peu coaché pour Instagram, pour le site web. Et ici, en gros, on continue, oui, on a cette relation pour la presse, mais on a aussi on a facilement accès à leur poser quelques questions pour justement essayer de voir si nos idées partent dans le bon sens ou pour corriger le tir ou pour adapter et essayer d'améliorer globalement le futur et la vision qu'on a pour Douaren sur les prochaines années au final.
Et c'est une collaboration donc plutôt quand même sur le long terme, c'était pas un one shot sur on vous donne quelques conseils
Non, c'est une relation à long terme, le but, ouais.
Génial. Et ça, c'est quelque chose pareil dont vous aviez envie dès le début, vous vous étiez dit, ben, il y aura un petit budget pour un accompagnement plus stratégique, etc. Ou c'est venu avec le temps?
Devine.
C'est les clés du gîte.
Oui.
Fautive. Et devine, est-ce que tu penses qu'on l'avait prévu depuis le début ou que ça arrivait par hasard et que c'est une très bonne chose?
Ah, je pense que c'est arrivé en cours de route.
Totalement, oui.
Non, on essaye de suivre religieusement les conseils que tu prônes.
Oh là là. Et donc là, vous avez fait un petit shooting avec Studio Payol. Ouais. Je crois que ça, c'est trop kiffant, non, de faire venir photographe pro et enfin mettre en valeur son hébergement.
Ouais, c'était super chouette.
C'était vraiment amusant. Mais on doit quand même dire, on a des amis qui sont photographes pro et qui nous accompagnaient déjà, qui avaient déjà fait des photos pour nous.
Mais t'en fais aussi, Yannick, non, il me semble.
Moi, j'en fais un petit peu, mais c'est pas mon métier, donc... On a toujours eu envie d'avoir des belles photos, et donc on a la chance d'être bien entouré aussi, d'avoir des amis qui nous font des belles photos. Et là, c'était une chance en plus d'avoir un œil externe, totalement externe au projet, et aussi beau que l'œil de Justine pour ça, quoi. C'était une chance assez folle, quoi.
Ah oui. Quels sont les projets là pour la suite?
Les projets, ben là on attend le bain nordique qui est bloqué quelque part à la livraison.
Une histoire de 7 cm de caisse.
Ils n'ont pas de camion pour nous livrer. Donc voilà, là ça traîne. Le bain nordique, ensuite continuer d'aménager le terrain. Et après, on verra.
c'est déjà super, hein. Laissez couler aussi. Le bain nordique, vous avez fait appel à quel fournisseur?
On est parti sur les modèles type abreuvoir à bétail. Je ne sais pas si tu vois.
Oui, je vois, ouais.
Les tanks, les tanks poules.
Tank D en Belgique.
Et c'est une compagnie belge qui importe ça des États-Unis.
D'accord. Ah, ok.
Et on a choisi un petit modèle ovale, genre de baignoire. Qui
est trop chouette. Et c'est alimenté par de la bûche?
Oui.
D'accord. Ouais. Et donc ça, ce sera le bois qu'il y a sur le terrain?
Oui, normalement.
Et ouais, trop chouette. Mais c'est pas toi, Yannick, qui va couper le bois?
En toute logique, oui. On ne sait pas la consommation qu'il y aura, donc on verra s'il y a assez de bois sur le terrain.
Il va y avoir une pénurie de pansements en France et on saura que c'est parce que tu coupes du bois.
Non, mais je finirai aux urgences assez vite, tracasse.
Bon, et tant qu'on parle parle de fournisseurs, vous avez choisi quelle enseigne pour la literie et pour votre linge de maison?
Eh ben, on est allé chez Ikea, mais on a pris le plus haut de gamme parce que, comme on le disait plus tôt, on a un peu fait les fonds de poche pour tout terminer les travaux. Donc, on s'est dit qu'on changerait ça petit à petit une fois qu'on aura de nouveau des fonds. Ouais.
Bah, tu le fais déjà petit à petit.
Oui, oui, petit à petit.
T'as intégré des thés qui viennent
de chez La Cerise sur le Gâteau.
Trop chouette.
Puis après, il y a La Redoute aussi. Mais voilà, on va commencer à changer petit à petit.
D'accord. Est-ce que tu mets à disposition des produits savon, gel douche, shampoing?
Alors, on a commencé à travailler avec Soin de Soi depuis pas très longtemps.
Et on a aussi d'accord. des petits savons solides pour les mains qui sont faits ici dans le Finistère.
Oui, excellent. Et pour l'entretien du linge, comment tu penses t'organiser ou comment tu as commencé à t'organiser? Est-ce que c'est toi qui le fais à la maison? Est-ce que tu as investi dans une plus grosse machine ou est-ce que tu délègues?
Non, on fait tout nous-mêmes.
D'accord.
On fait tout nous-mêmes. On n'a pas encore changé de machine à laver. Ça, c'est peut-être une idée dans le futur d'avoir quelque chose un peu plus gros. Mais on gère tout nous-mêmes, du lavage au repassage.
Le repassage.
Mais ça ne me dérange pas, j'aime bien. En vrai, j'aime bien.
Bon, tu écoutes des podcasts en même temps?
Ouais, je regarde des séries aussi. C'est mon petit moment off à moi.
Ah, c'est bon ça. Bon, ça va. Alors, si c'est pas trop une corvée. Et d'ailleurs, le temps de ménage, est-ce que vous avez fait, j'imagine, un test? Est-ce que vous êtes chronométré pour savoir combien de temps il vous fallait pour remettre tout en état entre deux locations?
On s'est jamais chronométré. Par contre, quand on est à nous deux, on met quoi, 3-4 heures?
Ouais.
Mais sans jamais mettre la gomme-gomme non plus, on prend notre temps.
D'accord. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu fais un minimum de nuitées? Est-ce que tu imagines que pour la saison juillet-août, ce sera plutôt 7? Est-ce que tu as la demande pour ça d'ailleurs? Est-ce que on est plutôt sur des courts séjours?
Hors vacances, on est sur 2 nuits minimum. Mm-hmm. Et sinon, pendant la période de vacances scolaires, on est sur 5 nuits minimum. Au départ, on était parti sur 7 nuits et on a eu des demandes pour moins. Et du coup, on s'est adapté à ça. Après, on verra peut-être après par la suite si ça change encore, mais 5 nuits c'était déjà
ça permet
mal.
Aux gens d'arriver le dimanche et de repartir avant le week-end suivant ou, ouais. Enfin, de...
et on n'a pas vraiment eu trop en plus
non,
en
ça s'est bien mis
comme ça, ça se remplissait bien.
Super. Et donc là vous avez combien de mois d'ouverture?
Bah, ça va faire 5 mois.
Ouais, ça va faire 5 mois.
On est encore tout jeune.
Et alors, petit débrief à 5 mois,
ouais, c'est
bien
mal.
Il fait ses nuits? Non, il commence à...
Non, c'est top. On a eu des super personnes.
Ouais, des belles rencontres.
On n'a pas eu de mauvaise surprise. On a eu on touche du bois à ce moment-là. Des belles semaines. Il y a eu une semaine qui ne voulait pas se louer, on ne sait pas pourquoi, et donc c'est des trucs qu'on va devoir essayer de comprendre avec le temps, quoi. Puis on a eu des chouettes partenariats avec justement Bretagne Tourisme, donc on a pu rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sans ce gîte, et c'est vraiment toujours un plaisir pour le moment de partager avec les gens qui viennent et de pouvoir leur parler de la région et de voir ce qu'ils viennent voir, ce qu'ils veulent voir. Et ça, c'est vraiment, non, pour le moment, totalement positif, leur tour.
Donc,
même le ménage, ce n'est pas désagréable à faire.
Ouais. Donc, ce changement de vie, c'est une réussite? Vous avez bien fait?
Moi, je crois, pour l'instant, en tout cas.
Après 5 mois, oui. On verra quand on aura passé la phase de lune de miel du gîte, tu vois.
Oui. C'est super. Est-ce que, pour autant, vous vous souvenez d'un moment plus compliqué, d'un coup dur, d'une épreuve que vous avez bien évidemment réussi à surmonter, mais voilà, qui a été un moment difficile?
Les papiers,
les papiers. Et on est, comme on disait, on est du genre à faire confiance, et on s'est rendu compte que dans le bâtiment, faut ne pas hésiter à rappeler, à être sur le dos des corps de métier, parce qu'en fait, ils ont tellement de priorités que tu as vite fait de descendre dans leur liste, quoi. Et ce n'est pas une chose qu'on trouvait très agréable. Si on leur demande de faire quelque chose, ils le font en temps et en heure, et s'ils ne le font pas, bah, ils te le disent, mais ce n'est pas toujours le cas.
Mais je pense que c'est vraiment propre à ces métiers-là, puisque bah, pour être en pleine rénovation de mon côté aussi, c'est une horreur. On a l'impression de devoir les harceler, et je déteste avoir ce rôle-là. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas juste prévenir « bon, ben, on ne viendra pas lundi, mais mardi. Bon, ben, ça a pris du retard. » Comme tu dis, Yannick, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir une relation adulte, ouais, et transparente.
Et toi, ça te stresse d'être sur leur dos?
Mais oui.
Mais pour eux, en fait, c'est normal. Ouais. C'est juste la norme pour eux, donc c'est bizarre.
C'est ça. Et à contrario, votre plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la levée de la maison, vraiment. Le jour où la structure a été mise en place, quoi. Fallait les quelques jours là autour. Le projet est devenu totalement concret, le terrain a totalement pris forme dans ma tête à ce moment-là, et j'avais des étoiles dans les yeux à les regarder monter ça, quoi.
Et toi, Chloé?
Moi, je dirais, j'ai pas un souvenir plus que l'autre, mais quand je vois les yeux qui brillent des gens quand ils arrivent et qui découvrent l'endroit, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis que j'ai réussi quand même quelque chose.
Oh oui, carrément même. Carrément.
Poète, je suis.
Non, mais vous pouvez largement vous féliciter et vraiment apprécier tout ce parcours et tout ce que vous avez réussi à accomplir. Ça, c'est
merci.
Sûr.
Merci.
Alors, est-ce que vous auriez 3 conseils à donner aux porteurs de projets qui nous écoutent?
Comme Yannick l'a dit, bien s'entourer, ça c'est hyper important. Se faire confiance et croire en son projet, ça aussi. Il ne faut vraiment pas douter. Et aussi, par rapport au budget...
tu seras en dessous du budget. Ton budget explosera de toute façon.
De toujours prévoir une ceinture de sécurité, parce que ça, c'est vraiment important de ne pas se retrouver...
C'est vrai. T'as beau être pessimiste sur le budget, ce sera quand même au-dessus, donc il faut toujours se rendre compte que ouais, il faut une marge de sécurité. Quoi.
Oui, complètement, tout à fait d'accord. Il y a toujours des mauvaises surprises, ou même si c'est pas des mauvaises surprises, on a envie peut-être d'aller encore plus loin. Ouais.
Comme tu disais, le projet évolue, et tes envies changent au fur et à mesure, et donc ce que tu pensais acquis à un moment ne l'est peut-être pas du tout, et vaut mieux se laisser cette possibilité d'avoir cette liberté de naviguer ça, quoi.
Complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, Chloé, tu peux te verser un petit salaire grâce à l'activité, ou c'est encore trop tôt?
Non, pas encore, c'est encore trop tôt.
Et est-ce que dans votre prévisionnel, c'est quelque chose qui doit arriver, je ne sais pas, dès la deuxième, peut-être troisième année?
On va laisser passer ces 3 ans de prévisionnel, et après, on envisagera peut-être de faire quelque chose.
D'accord.
Ouais, on a vraiment cette chance, comme on te disait, d'avoir pu se dire qu'on peut juste, qu'on a assez pour vivre en n'ayant qu'un seul de nous deux qui travaille.
Et est-ce que toi, Yannick, ça a éveillé une envie de peut-être changer aussi de boulot, d'aider davantage Chloé sur ce projet-là, ou voilà, est-ce que ça a éveillé d'autres
envies? Je les avais déjà un peu avant, mais ici, ça a rendu les choses réellement possibles aussi. Je pense pas que j'arrêterai de programmer à 100%, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, et ça reste un emploi qui en demande, donc c'est pratique. Mais réduire peut-être, ne plus être à 100% là-dessus totalement. J'ai plein de projets en tête, que j'ai depuis des années, qui sont dans des fichiers texte avec « et si je faisais ceci ?» Et puis toute une description. Et,
rêve numéro 1.
Et en fait, ce gîte, c'est parti comme ça aussi au début. C'était « et si on ouvrait un gîte ?» Et donc, il y a C'est juste, il y a plein d'idées. On a toute une vie pour les réaliser, quoi. Donc, effectivement, l'idée d'avoir une carrière comme nos parents ou nos grands-parents, bah, j'y crois plus trop. Enfin, j'y crois pas trop. J'y croyais déjà pas en commençant, parce que j'ai déjà commencé en changeant de boulot tous les ans. Donc, c'est juste que là, je suis plus ou moins stable depuis qu'on a Tom, mais je sais que c'est simplement une stabilité pour pouvoir mieux rebondir après, quoi. J'ai la bougeotte, en fait.
Ben ouais, mais je suis pareil. Donc, je peux que comprendre. Et ben on arrive à la fin de notre échange. Donc, vous savez, j'ai deux dernières questions pour conclure. La première, c'est dans quel gîte ou chambre d'hôte vous aimeriez séjourner le temps d'un week-end ?
On en a sélectionné deux, un chacun, si tu es d'accord.
Ben non, je ne suis pas d'accord. Non, je rigole.
Non, mais on irait dans les deux. Enfin, on... pas séparément, on irait tous ensemble dans les deux, c'est ça.
Je vous écoute.
Dites-moi. Moi, j'irais bien chez Papote en Bourgogne.
Ah, bien sûr.
Ça a l'air tellement chouette. Ils ont l'air tellement drôles.
Mais t'as vu cette communication qu'ils ont sur Instagram. Mais ouais, c'est ouf. Je sais pas comment ils trouvent cet humour, ces jeux de mots, derrière, le graphisme.
Ah ouais.
Ouais, moi, j'irais bien y boire du café et admirer les magnifiques lettrages qu'ils ont faits en extérieur. Qui sont...
Magnifique. Avec un effet vieilli, là.
Ouais,
c'est...
j'adore.
C'est canon. Bon, ben, déjà, je viens avec vous. Ça, c'est cool. Fait.
Mais oui,
ensuite.
Et moi, c'est plus proche, en fait. C'est, ici, en baie d'Audierne, il y a Côté Rêve.
D'accord.
Un couple qui accueille chez eux, donc c'est une maison d'hôtes, c'est un couple franco-néerlandais, et ils font aussi de l'apprentissage et du coaching pour le surf, donc c'est totalement pour moi, quoi. Donc aller faire du surf et bien manger et papoter et s'amuser toute la journée.
Mais c'est un beau programme, je crois. Et alors, pour conclure, pour finir en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit du refuge d'Ouarène ?
Là, hier, on s'est fait un blind test. Enfin, en gros, c'est moi qui passais des chansons et Chloé découvrait toutes les chansons. Et on est passé sur plein de choses qui sont sur l'état d'esprit de notre parcours, sur l'état d'esprit du lieu, etc. Et au final, on s'est arrêté sur Ben Harper.
Ah, pas mal.
With My Own Two Hands. Qui au final est une très belle chanson d'amour et de partage.
C'est magnifique, superbe. J'adore cette question parce que c'est toujours des découvertes et c'est tellement différent d'une personne à une autre.
Ouais, bon, on a hésité à mettre du Patrick Sébastien.
Non, c'était Mano. Non, c'était Mano.
Ouais, on avait Mano, on avait la vallée de Dana.
Ouais, il y avait la vallée de Dana.
Ah oui.
Parce que c'est notre chanson de vacances, en fait. Nos vacances commencent par la vallée de Dana. Si on doit prendre la route, c'est la vallée de Dana qui démarre.
Ok. Mais ça va. Mais on vous imagine comme ça dans la voiture. Avec la musique.
Tu penseras à nous la prochaine fois que tu écouteras Mano.
Oui, c'est clair. Bon, eh ben, j'espère venir rapidement en Bretagne pour venir vous faire un coucou, goûter le délicieux gâteau au chocolat de Chloé qui apparemment est à tomber.
Ouais, totalement.
Et en tout cas, un immense merci à tous les deux pour votre temps, pour ce super témoignage et à très bientôt pour la suite de cette belle aventure.
Merci à toi de nous avoir accueillis et à très bientôt.
Salut.
C'est déjà la fin de l'épisode, ça passe beaucoup trop vite. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée !
your own, use your own two hands. Use your own two hands. And with our own two hands. With our own two hands. With my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place.